Alors maintenant, peut-être dire un mot quand même sur Fabrice Melchiot, puisque c'est aussi une autre dimension du projet, puisque c'est un auteur que vous avez rencontré, que vous avez sollicité même, et qui a accepté d'écrire des textes pour la pièce, quoi. Donc peut-être tu vas regarder Ben, puisque c'est toi qui l'as rencontré récemment, en plus dans la semaine même.
Allô, Fabrice Melchiot. Comme je disais tout à l'heure, ce projet était né d'une envie de poser des questions à des personnes. Et je tournais autour de ce problème-là pour voir comment on pouvait venir questionner les gens par un biais intéressant. Comment rentrer dans une certaine intimité. Et l'idée, c'est de vraiment venir à la fin de troubler les gens, de venir poser des questions qui deviennent de plus en plus intimes et rentrer vraiment en contact avec eux. Comment faire pour démarrer? Qu'est-ce qu'on pose comme question de départ? Et comment on fait ce passage de rentrer en intimité avec eux? Et assez vite, j'ai trouvé mes limites de ça. Et je connaissais déjà le travail d'écriture de Fabrice Melchiot, qui a cette capacité de pouvoir parler à chacun comme si on a vraiment l'impression que vraiment il s'adresse qu'à nous. Et il a cette capacité-là dans son écriture. J'ai déjà vu en allant au spectacle avec mon fils, ma mère, etc. Et chacun a l'impression que à l'endroit où il écrit, c'est vraiment il a tout compris et vraiment il est en train de me parler. Et une fois que je lui ai demandé s'il était intéressé, il y était, heureusement. Et en fait, lui, il était très intéressé et par l'approche du projet, mais aussi le fait de sortir du théâtre, de venir justement adresser directement aux gens par un autre biais que lui ne connaît pas non plus. Donc, encore une fois, c'était son chemin, on va dire, inconnu aussi pour lui dans ce projet. Voilà. Donc c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, c'est de proposer des projets à des gens pour qu'ils sortent aussi de ce qu'ils ont l'habitude de faire.
Très bien. Donc nous, on peut juste mentionner par rapport à la médiathèque, non pas ici, mais puisque la médiathèque a la chance d'appartenir à un réseau, que nous avons la chance d'en avoir trois dans nos collections, éditées aux éditions L'Arche. Voilà. Donc
Et juste pour dire qu'on va bientôt avoir la version des textes de Trouble. S'appelait Semer le trouble, qui se trouvera bientôt à la médiathèque Cantenaire.
voilà, on
Voilà.
ne manquera pas de l'acquérir. Alors maintenant, pour arriver tout doucement à la dernière partie de ce petit entretien, qui est vraiment l'idée de faire un petit peu des croisements, des rebonds sur le travail, je vous propose, avant que vous ne puissiez, si vous le souhaitez, dire soit un texte, soit une chanson, soit un film ou toute autre chose qui pourrait faire un écho à ce projet, de dire un petit mot sur une œuvre un peu pionnière qui est présente ici dans ce beau catalogue Laurie Anderson. Donc c'est une œuvre de 78 de Anne von Tebel, donc qu'elle avait réalisée et qui a la chance maintenant d'être présente dans les collections du Musée d'art contemporain de Lyon. Et donc ça c'est une phrase que vous avez sûrement lue, mais on va la redire pour les auditeurs, que c'est toujours intéressant aussi de revenir dans comment les choses se déclenchent, un petit peu comme tu l'as dit aussi. Donc voilà, elle nous dit ceci en 78, l'idée m'en est venue quand j'étais en train d'écrire une histoire à l'aide d'une machine à écrire électrique. Ça n'avançait pas, ça me donnait le cafard, je me suis pris la tête dans les mains, et c'est là que je l'ai entendu, cette sorte de bourdonnement très fort émis par la machine, amplifié par la table et qui montait par mes bras jusque dans ma tête, un son très clair et très fort. Ainsi, j'ai pris le parti de fabriquer une table parlante qui comporterait à l'intérieur des platines cassettes et des compresseurs de son branchés sur des tiges en acier. Le bout de chaque tige rentre en contact avec une sorte de capteur incrusté dans la surface de la table à la manière d'un nœud. Si l'on met ses coudes sur les prises, le son monte le long des os, des bras. Il suffit alors de placer les mains sur ses oreilles en guise de casque. Quant au son, je voulais qu'il révèle du souvenir plutôt que de l'immédiateté. Enfin, des sons qui vibraient dans les os les faisaient chanter. Voilà, donc ça c'est une pièce, je pense que vous connaissiez évidemment ce travail.
Oui, tout à fait. C'est un travail que j'ai souvent entendu parler. Je ne l'ai jamais enfin vu. Je suis allé plusieurs fois à Lyon et puis c'était pas le bon moment, il était ailleurs. Mais c'est quelque chose qui me tracasse depuis un moment. Et donc c'est voilà, c'est pas de aller dans ses pas pour faire un truc comme ça, mais cette histoire de faire par le biais qu'on n'utilise pas les artifices comme un casque, dans, comme ça, de faire autrement, m'intéresse toujours.
Très bien. Alors maintenant, je voulais vous faire une petite surprise qui va être enfin révélée. C'est la découverte d'un texte que j'ai lu cette semaine. Des fois, on a, comme tout le monde, on a des livres chez soi et puis on ne lit pas toujours au moment où on achète les livres, etc. Mais j'avais ce livre qui traînait depuis un moment. J'avais lu quelques morceaux, mais pas tout. Donc, qui s'intitule Chaque fois que l'aube paraît. C'est des essais de René Daumal. Et il y a un texte incroyable. Hein. Bon, après, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je suis très, très troublé pour employer le terme de votre pièce, qui s'intitule L'envers de la tête. Et je vais vous lire quelques morceaux de ce texte, puis après je vous laisserai la photocopie comme document de travail si ça vous intéresse. La tête et la face, décrites du dedans. De la tête où je viens d'entrer, je vais essayer de vous décrire ce que je perçois. Il y a une partie plutôt molle, percée d'orifices par lesquels je puis voir, entendre, flairer, goûter, avaler, et que j'appelle la face ou l'avant. Et une partie plutôt dure, sans orifices, qui ne voit ni n'entend, ni ne flaire, ni ne goûte, et que j'appelle le crâne ou l'arrière. Pourquoi ces noms? Tout bonnement parce que je les lis ici sur des étiquettes, car entre la face et le crâne, c'est tout plein d'étiquettes, et j'y puis lire les dénominations de toutes choses perceptibles. D'après les pancartes qu'il y a là, au milieu de la tête, toute cette machinerie sert à penser. Penser, elle le peut, mais penser à quoi? Cela n'est pas elle qui peut en décider. Qui donc en décide? Moi? Qui? Moi. Emprisonné là-dedans, je sens ma peau de ma face, avec mes yeux, mes oreilles, mes narines, ma bouche, qui fait une grimace, ma grimace. Une autre face me fait sa grimace à elle, et je riposte par une nouvelle grimace qui est encore ma grimace, et en laquelle se résument toutes mes prétentions, toutes mes hypocrisies, toutes mes commodités. Un miroir se présente, la grimace qu'il reflète parle encore à la première personne, et elle n'a guère moins raison de le faire. Je saute deux pages pour aller à peine plus loin, parce qu'il y a un autre très beau passage qui dit ceci. C'est par peur de cette horrible révélation que nous grimons et que nous grimaçons. Et notre tête, modeleuse de masques et conteuse d'histoires, au lieu de nous guider vers la vérité, est devenue notre machine à nous mentir. Le latin disait bien mens mentiri, et il est remarquable que les Français ont abandonné leur mot chef, qui désignait le conducteur du corps, pour le mot test, qui signifie peau, à l'époque justement où l'on commençait à regarder plus que jamais la tête comme une chose à remplir plutôt qu'à faire fonctionner. À l'époque aussi où les visages humains, dans les arts, cessèrent de signifier des idées pour représenter des personnages. Voilà, donc j'ai vraiment été assez troublé par ce texte, j'avais envie de partager avec vous, et puis voilà, simplement de le lire aussi. Comme je le fais maintenant, voilà. Donc, est-ce que vous auriez peut-être à votre tour un écho comme ça qui vous viendrait par rapport à ce travail découvert déjà bien en amont ou de quelque chose dont vous auriez pu discuter là depuis que vous êtes ensemble ou ça peut être aussi complètement hors sujet, enfin façon de parler, c'est-à-dire quelque chose que vous lisez en ce moment ou vous écoutez en ce moment et dont vous avez envie de parler, comme on dit un peu fréquemment, un coup de cœur. Voilà, si vous avez envie, chacun. Peu importe l'ordre.
Par rapport à la question, moi je sais pas, mais ce qui me vient comme ça, c'est peut-être par rapport à mon coup, mais je me suis fait l'année dernière pas mal de Philippe K. Dick, et il y a beaucoup de paroles intérieures un peu inquiétantes comme ça, qui sont dans un autre registre hein, que les idées qu'on manipule ici, mais voilà, je sais pas, c'est ce qui me vient. Là tout de suite, les précoques de K. Dick. Qui se parlent les uns aux autres par télépathie.
Ce petit texte sur les têtes pleines d'étiquettes fait penser à quelques articles de la recherche sur le fonctionnement du cerveau, peut-être dans un autre registre.
Et moi, je pense que c'est pas forcément autour de ce projet-là, mais c'est un livre que j'ai à côté de mon lit et je lis souvent, c'est Le paysage sonore. Et pour moi, c'est toujours une plongée et c'est toujours aussi, je travaille toujours sur l'écoute. L'écoute m'intéresse, l'écoute des autres, l'écoute de ce qui se passe autour.
Très bien, bah merci à tous les trois et bonne continuation de la résidence qui continue encore demain. Voilà, et puis à Bourgogne et puis après dans d'autres endroits. Voilà. Merci beaucoup.